Aujourd'hui, on va faire de 8 à 17. Mais comme il avait rappelé qu'il est parfois difficile de vivre une vie tellement difficile à vivre une vie tellement ancrée en Christ dans un monde qui ne l'est pas. C'est pourquoi aujourd'hui, le thème de ce message, c'est une vie à contre-courant, une vie centrée sur Christ. C'est vraiment le point de vue, parce qu'aujourd'hui, penser autrement que les dogmes que la société nous intègre, quand on est dans une société, il y a des dogmes établis, il y a des règles établies, il y a des pensées établies. Et il faut penser comme ça, c'est pas directement dit, mais c'est implicite. Et il est très difficile, en grandissant dans une société, par exemple ici, à l'occidental, ou de penser autrement que la pensée générale de la société. J'ai dit ça par exemple, moi personnellement, j'ai un autre avis sur le mariage homosexuel à l'époque du scandale. J'avais un autre avis que celui présenté par la société. J'étais forcément l'ennemi de la société, parce que j'ai un autre avis. Quand on parle de tous ces sujets sur la bioéthique, on a un autre avis, on a un avis qui est biblique, donc on est ennemi de la société par notre avis. Et Pierre s'adresse, dans son début de son épître, il le dit, à des chrétiens dispersés, à des chrétiens persécutés, à des chrétiens en minorité dans un monde différent. Et il les engage, il les exhorte à penser différemment. Donc on a une vie qui a contre-courant, ça faut le savoir, on a une vie qui a contre-courant du monde. Et là, aujourd'hui, on va penser à qui n'a pas envie de se venger face à une situation injuste? Qui n'a pas envie, des fois, de secouer un collègue qui nous pousse à bout? Qui n'a pas envie de répondre à l'insulte par l'insulte, à la brimade par la brimade? On doit résister à ça, et quand on fait pas ces genres de choses, on a en plus les insultes. Quand on se bat pas, on est, oh, t'es une poule mouillée. C'est pour ça que tu le fais pas. Et c'est pas toujours facile que, peu importe notre âge, de réagir selon la Bible. Parce que parfois on s'en prend même à Dieu, en se disant, eh, mais si t'étais vraiment juste, je devrais pas souffrir ça. Parfois même, on arrive jusque-là. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Et on doit le reconnaître que nous sommes des produits de notre société. Nous sommes des chrétiens inscrits dans une société, avec nos faiblesses et nos forces qui sont parfois issues de la société. Et donc, Pierre encourage les chrétiens de l'époque, comme il nous encourage aujourd'hui à travers cette lecture, de nous défaire de ce qui peut nous enchaîner à la société pour être seulement citoyens du royaume de Christ, du royaume de Dieu, du royaume qui vient. Et donc, ce matin, Pierre exhorte les chrétiens qui, malgré leurs moqueries, malgré les persécutions, malgré les faiblesses, malgré parfois d'être mis au banc de la société, de continuer dans le chemin de Christ et de s'accrocher à la foi. Et l'apôtre va nous dire comment agir pour la gloire de Dieu. Donc on va prendre le passage, Bible en main ce matin, c'est 1 Pierre 3, versets 8 à 17. Je vous invite à le lire. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Jusque-là. Pierre expose donc ici la vie du chrétien, la manière de vivre dans une société hostile, une manière de penser à contre-courant, une manière tellement différente. Et la semaine dernière, je reviens un peu dessus, Josué avait exposé le couple biblique, le couple vu de la manière de la Bible. Le couple, soit l'homme et la femme sont chrétiens, soit juste l'homme, soit la femme, mais ils étaient tellement différents que les couples qu'il y avait à l'époque ou les couples qu'on voit aujourd'hui. La manière de vivre se vit déjà seul entre nous et Dieu, en couple si nous sommes en couple, avec notre famille, et après ça s'élargit. Mais si on se comporte déjà mal avec le Seigneur, si on se comporte déjà mal avec notre couple, tout va en pâtir. Et l'apôtre, il continue donc à vivre dans l'Église, à contre-courant, dans le monde, et il expose les bienfaits d'une telle vie et les besoins pour y parvenir. Donc une vie à contre-courant dans l'Église, c'est le premier point. Parce que c'est là où on commence la vie de l'Église. La vie de l'Église, c'est là où on commence. On a été régénéré, on a trouvé une Église, on a trouvé un lieu avec nos frères et sœurs, et c'est là où on va commencer à s'expérimenter la vie en Christ. C'est là où on va apprendre, c'est là où on va être repris, enseigné, construit. C'est là où on nous donne les armes suffisantes pour pouvoir briller en dehors de l'Église. Et c'est pourquoi Pierre, il met un verset dans 1 Pierre 3, verset 8, « Enfin ». Et vous voyez, c'est une poursuite. Il avait parlé des femmes, il avait parlé des maris, et après il dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité ». Là, il les encourage. Il les encourage à être tous, quand ils se retrouvent, animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Même si au dehors, le monde est différent. Même si au dehors, le monde pense différemment. Ici, nous avons une même pensée, nous avons des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Alors, il ne dit pas que faire des clones. Hein. Tout le monde pense la même chose sur tout. Mais là, Pierre dresse les pensées et les sentiments de la Bible. C'est-à-dire, tout le monde sait que Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité des morts, Jésus-Christ mon sauveur, Jésus-Christ mon Seigneur, et ses valeurs bibliques dans les grandes lignes. Paul, il exhorte les chrétiens à être unis entre eux, animés des mêmes objectifs, la gloire de Dieu. Tout comme dans le couple, il faut que nous soyons unis, pleins de compassion. Comme avec nos frères et sœurs, dans la famille et dans la famille que Dieu nous a donnée. L'Église est l'endroit où le chrétien n'est pas à contre-courant, mais du coup, il vit tous dans la même direction. Ici, normalement, nous allons tous dans la même direction. Ici, nous allons tous dans le même moyen de penser en Jésus-Christ. J'allais dire, c'est pour ça qu'on dit on aime bien se retrouver ensemble, parce qu'on est dans une famille. Et normalement, on n'a pas à lutter. On peut avoir des différences sur différents points de doctrine, mais les grands points de doctrine, on est tous d'accord. Et du coup, on est vraiment nous-mêmes. On n'a pas toujours à se batailler avec le monde ou à défendre, on est vraiment nous-mêmes dans l'Église. C'est pourquoi il dit, surtout, il ne faut pas être troublé là, parce que ça peut être difficile. Dans Jacques 4, verset 1 à 4, c'est ce qu'il rappelait. Quand il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, avec desquels vous querellez des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui va être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques prévenait déjà que justement dans l'Église, il ne faut pas que ça soit ça. Il ne faut pas que ça soit les membres qui combattent entre eux et nous-mêmes, que nous combattons à l'intérieur de nous-mêmes. Et André nous l'a rappelé, entre les besoins nécessaires, nos nécessaires et nos envies, nos désirs. Et Jacques dénonçait déjà la manière de demander qui n'était pas correcte. Et il ne faut pas aimer le monde. Celui qui est ami du monde, celui qui se rend ami du monde est ennemi de Dieu. Dans le but d'éviter de telles dérives, Pierre donc encourage les frères et sœurs dispersés à ne pas agir ainsi entre eux. Et après, il va donner tout un tas de manières de faire et de vivre qui vont s'appliquer autant dans le monde que dans l'Église. C'est une vie à contre-courant dans le monde, mais sous-entendue dans l'Église. Dans 1 Pierre 3, versets 9 à 14, « Ne rendez point le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il cherche la paix à poursuivre, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. » Et le verset 16-17, « Ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Pierre, il va citer plusieurs mots d'ordre aux chrétiens. Il va leur dire, voilà comment agir. Voilà la pensée chrétienne. Voilà ce qui vous met à contre-courant des pensées mondaines de votre époque et de la nôtre. Il va dire, il ne faut pas agir comme le monde agit. Mais l'esprit qui est en vous vous pousse à agir d'une autre manière. Vous pousse à agir comme Christ a agi. Il va lui dire, vivre une vie à contre-courant, c'est pour refléter la gloire de Dieu et la puissance de la foi qui nous anime. Le but, ce n'est pas notre bien-être, ce n'est pas notre petit être à nous, ce n'est pas l'être égoïste. Le but, c'est de reconnaître la puissance de Dieu dans nos vies. Le but, c'est la gloire de Dieu à travers nous. Et le but, c'est l'expansion de l'Évangile. Ce que demande la Bible, c'est inhumain, dans le sens où ce n'est pas possible humainement. La chair, elle ne peut pas faire ça. La chair, elle s'aime trop. Mais c'est seulement l'Esprit Saint qui est en nous qui va nous donner la force nécessaire pour agir de cette manière. Tout ce que Pierre demande, c'est d'être imitateur de Christ. Et donc, c'est d'être des véritables disciples de Christ, tout le temps. Et ça me rappelle une anecdote quand je discutais avec un camarade musulman que j'ai rencontré au laboratoire. Pour lui, il disait, les chrétiens, ce qu'il n'aimait pas, c'est que c'était facile. Il dit, vous avez juste à croire en Jésus et c'est fini. Votre vie, c'est bon, c'est... Vous n'avez plus qu'à vous tourner les pouces sur votre chaise et vous êtes sauvé. Il pouvait tellement, il se trompait, tellement, j'ai eu du mal à lui expliquer que ce n'était pas du tout ça, même s'il avait rencontré des chrétiens comme ça, parce qu'il me citait beaucoup de chrétiens, je ne dis pas que tous les catholiques sont comme ça, mais d'obédience catholique, qui voilà, ils vont à la messe de temps en temps et ça y est, ils ne changent pas, ils continuent à boire, ils continuent à jurer, à fumer, enfin à faire tout ce que lui, c'était normalement impossible à ses yeux. Et je lui expliquais que c'est tellement différent. C'est tellement différent, la vie de Christ en nous. Elle se voit et elle se vit. Et ce n'est pas facile d'être chrétien. Ce n'est pas facile parce que c'est une bagarre constante entre ce qu'on veut et ce que l'esprit veut. Entre ce que la chair veut et entre ce que l'esprit nous dit. Et c'est pour ça que la vie chrétienne, ce n'est pas une suite de dogmes ou de rites. Ce n'est pas une suite de sermons. Ce n'est pas une suite de scènes. Ce n'est pas une suite de dimanches qui s'accumulent, c'est une vie de tous les jours avec le Seigneur. Et c'est nous en premier mis en avant, c'est chacun d'entre nous avec notre relation avec Dieu. Et c'est tous les jours qu'on doit aller à ses pieds, comme disaient Marthe et Marie, tous les jours. Et donc on a un mode de vie qui est un contre-courant dans toutes les sociétés du monde. Parce que le mode de vie dans lequel on veut vivre, c'est le mode de vie qui sera reflété dans un royaume qui vient, et nous l'avions dit. Déjà, tout au début, Pierre oppose toujours ces deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du monde. Et ne pas rendre le mal pour le mal, mais c'est vivre pour le bien. C'est une des premières choses qu'il va demander. Et c'est dur d'être gentil et bienveillant. Quand quelqu'un en face de vous n'est pas gentil et bienveillant. Quand on se moque de nous, quand on cherche querelle, on a tendance à rentrer dedans. Et pourtant, Pierre, il dit, attention, ça c'est l'une des idées centrales de la vie chrétienne. C'est la parole de Christ lui-même quand il va dire dans Matthieu 5, versets 46-48, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi agissent, n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Christ va demander quelque chose d'impossible. Il va demander quelque chose d'impossible, d'être gentil, d'être bon avec ceux qu'ils ne le sont pas. Christ annonçait déjà un chemin difficile, mais lui, il y a marché pour que nous puissions y marcher par l'Esprit. Un chemin à l'encontre du monde, là où chacun mijote sa propre vengeance, des vengeances bien calculées nous réjouissent. Je ne sais pas si vous avez lu ou vu le conte de Monte Cristo, on est tous contents. Ah là là, c'est bien, la bonne vengeance qu'il fait. Parce que quelque part, on aime ça. Parce que quelque part, la chair veut se venger, la chair veut sa justice elle-même. Et ce n'est pas à quoi nous sommes appelés pourtant. Et je pensais à ces chrétiens d'Érythrée qui nous avaient beaucoup encouragés. Un chrétien qui a été torturé par ses bourreaux et qui a été balancé dans une cellule. Et un homme qui était là dans la cellule aussi, qui était arrêté pour d'autres raisons, commence à le soigner, puis il l'entend parler. Et en fait, il priait pour les gens qui venaient de le torturer. Et moi, je trouvais ça incroyable. Il vient de se faire torturer et prier pour le salut, qu'au travers la capacité qu'il avait à supporter les tortures juste parce qu'il était chrétien, puisse interpeller les bourreaux qui sont en train de le torturer. Moi, je me dis, c'est tellement pas naturel. Ce que demande Christ, c'est possible, mais c'est pas naturel. Ça demande un culte personnel au pied du Seigneur pour pouvoir vivre ces choses-là. Et c'est ce que, à travers ces mots simples, c'est ce que Pierre encourage. Quand il dit « ne rendre pas le mal, mais vivre pour le bien ». Et après, il va dire « rechercher la paix, être artisan de paix ». C'est vraiment une des idées de base de la paix dans notre cœur. La paix, elle est dans notre cœur parce qu'elle est en règle avec Dieu. Et du coup, nous sommes en paix avec les autres. On a souvent parlé que ça commence déjà par nous. Si nous sommes en paix avec Dieu, nous avons fait la paix avec lui au travers de Jésus-Christ. Donc nous pouvons avoir la paix dans notre couple, dans notre famille étendue, avec nos frères et sœurs et avec le monde. Et c'est ce que Paul disait aux Romains quand il va écrire à l'église de Rome dans Romains 12, versets 18 à 21. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Ne laissez pas agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Pierre, comme Paul, rappelle aux chrétiens, dans leur individualité, d'être des artisans de la paix selon la Bible, ce qui est encore une fois à contre-courant des pensées mondaines. Parce que personne ne recherche visiblement la paix, mais sa paix. Et les gens sont heureux quand eux, ils sont en paix. Même si tout le monde autour ne l'est pas, on recherche la paix. Et il y a des gens qui aiment faire du mal aux autres, pour être en paix. Malheureusement, ça se rencontre dans le milieu du travail ou de l'école. Il y a des gens qui vivent et eux, ils sont bien que quand les autres vont mal. Ils se réjouissent parfois du mal des autres. Et nous, dans des milieux là où les chrétiens étaient torturés ou pourchassés ou moqués, voilà ce qu'ils leur demandent. Ne rendez pas le mal, vive pour le bien, soyez artisans de paix. C'est pas facile. Et comment il leur dit, foi dans la souffrance, confiance en Dieu. Pierre aborde également le sujet des épreuves. De la souffrance à cause de la foi. Mais là aussi, l'apôtre, il ne les laisse pas seuls. Il encourage les chrétiens à ne pas regarder avec leurs propres yeux ce qui se passe, mais de voir au-delà, de garder confiance à Dieu et à rester leur foi fortifiée, à prier pour que leur foi fortifie. Il ajoute aussi qu'il vaut mieux souffrir pour avoir fait le bien en Christ que de souffrir à cause de notre méchant caractère et de nos mauvais penchants. Si je vais en prison parce que j'ai volé quelque chose, je suis en prison, oui, mais parce que j'ai volé quelque chose. Donc, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Si on va en prison parce qu'on souffre pour Christ, ce n'est pas facile. Mais l'apôtre est en train de dire, vaut mieux aller en prison pour votre foi ou souffrir pour votre foi que de souffrir parce que vous vivez les tourments où vous avez mal agi. Pierre, il revient plus tard dans son épître, mais il enseigne, pour eux comme pour nous, que nous devons garder confiance en Dieu, peu importe la situation. Et que tout cela n'est rien face à la gloire qui vient. Et dans 1 Pierre 4, versets 12 à 13, qu'on verra par la suite, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme une chose étrange qui ce qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous ayez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Et dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9, donc plus tard aussi on le verra, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Nous ne sommes pas seuls. Les souffrances, les tourments, les difficultés existent, sont inhérentes à la vie chrétienne. Paul, Pierre ne les nie pas. Christ lui-même ne l'a pas nié, que ce n'était pas toujours facile d'être chrétien, mais dit, soyez encouragés. C'est des choses qui sont là, qui sont parfois difficiles, mais elles ne durent pas face à la gloire qui vient. Et ça nous est difficile parce que nous, on pense à maintenant. Mais Jésus avait parlé du point et de la ligne. Nous, on est concentrés sur un point. Voilà, ça, c'est notre point de A à Z, c'est notre vie. Et là, il y a une ligne, c'est l'éternité. Et il dit, il y a quelque chose de plus grand qui arrive. Et tout ça, des fois, c'est pour éprouver notre foi. Résistez-lui avec une foi ferme. Tous ces points ne sont pas pour nous, pour nous faire prendre conscience du monde autour qu'il existe une vérité, une foi et un seul Dieu. Des fois, ce n'est pas que pour nous que nous souffrons. On pense que il m'arrive des trucs à moi, que pourtant moi j'essaie d'être un bon chrétien, pourtant moi je pensais avoir la foi. Et c'est vrai, parfois on peut nous arriver quelque chose, mais au travers nous, au travers notre manière de réagir, au travers les souffrances, ça peut être un appel pour d'autres, en disant, ils traversent quelque chose de terrible, Comment ça se fait qu'il reste en paix? Comment ça se fait que malgré les doutes, les pleurs, les craintes, il y a quand même quelque chose qui émane d'eux? Je peux être intéressé par ça. Philippe Yvan m'avait raconté, une de son professeur qui est mort d'un cancer, il disait qu'il émanait d'une paix que même les gens qui le soignaient, les gens de l'hôpital étaient surpris, ils étaient interpellés. Ils sont même venus à son enterrement parce qu'ils étaient interpellés. C'est un homme qui souffrait, c'est un homme qui allait à la mort, et pourtant il avait une espérance, il avait une joie, il avait une manière qui a interpellé beaucoup de gens. Alors on dit c'est triste, il est mort, mais au travers de sa mort, qui sait combien de personnes finalement pourront rencontrer le Seigneur au travers cela. Et dans 1 Pierre 2, versets 11 à 12, c'est un passage charnière qu'on a déjà cité plusieurs fois. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. » Voilà les points centraux que rappelle Pierre. Vous souffrez, il y a des difficultés, gardez la foi, rendez le bien et pas le mal. Soyez artisans de paix. Pourquoi ? Pour le jour où ceux qui vous calomnient, ceux qui vous torturent, ceux qui vous attaquent, le jour où Dieu les visite, ils glorifient Dieu. Alors comment agir dans nos vies ? Comment voir cette vie chrétienne puissante, criante de la gloire de Dieu dans nos vies ? Ce n'est pas facile. Et les besoins nécessaires pour avoir une vie centrée, pour vivre cette vie, c'est une vie centrée sur Christ. Pour vivre ainsi et ne pas laisser le monde nous dicter nos comportements ou notre chair, il nous faut être imprégné de la parole de Dieu, lire la Bible, prier, seul, en couple, entre frères et sœurs, en groupe de quartier, en assemblée, partager la parole qui est le seul rempart efficace pour les attaques du monde. Pierre souligne en ces termes, 1 Pierre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. » Un seul verset, Pierre met en évidence que la seule arme que dispose le chrétien, la seule arme qu'on a pour tenir ferme, pour vivre une vie à contre-courant, c'est une vie sanctifiée, centrée sur Jésus-Christ. C'est impossible de faire autrement, c'est le seul moyen. Il donne le seul moyen, c'est ça. Il dit chaque jour, à chaque fois que c'est nécessaire, nous devons revenir à Dieu, nous devons être au pied du Seigneur. Chacun, individuellement, en couple, en famille. Il dit, c'est pas possible de vivre comme ça, sans communion avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement le dimanche, mais prenons conscience qu'on a un rendez-vous avec le Seigneur, et le Seigneur nous attend. Et ne laissons pas le monde, par toute cette agitation, nous prendre notre temps, qu'on puisse pas le prendre. Alors quand on peut, hein, tout le monde n'a pas les mêmes dispositions, tout le monde n'a pas le même travail. Mais ayons conscience, personnellement, chacun entre nous, de prendre un temps pour le Seigneur, de s'arranger en se disant, là, je vais prendre 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, deux heures, ça dépend le temps qu'on a. Mais là, ça sera pour le Seigneur. Parce que si je veux vivre une vie sanctifiée, si je veux vivre une vie centrée sur Christ, il faut que je prenne rendez-vous avec Christ et à travers la parole, la prière, seul, en couple, en famille. Dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Dans Colossiens 3, verset 16, « Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » La Bible nous encourage de plusieurs manières à sa lecture pour épuiser les connaissances, le courage, l'affermissement de la foi, pour résister au courant du monde et vivre une vie chrétienne qui porte du fruit. Je l'avais déjà partagé ici, mais si vous avez déjà plus petit ou plus jeune, traversé une rivière avec un bon débit, si on veut être à contre-courant, il ne faut pas s'arrêter. Si vous arrêtez, vous vous êtes reprojeté en arrière. Donc une vie chrétienne, c'est une vie qui avance. On ne peut pas s'arrêter dans la vie chrétienne. On avance à petits pas, on avance des fois doucement, mais on ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais, sinon on est emporté par le monde. Et même si on n'avance pas tous à la même vitesse, la Bible nous encourage que pour porter du fruit, pour avoir une vie chrétienne capable de ne pas rendre le mal, d'être artisan de paix, d'avoir une foi, une ferme assurance de la foi, comme le partageait tout à l'heure Tom, il faut vivre avec le Seigneur individuellement, chacun, des temps particuliers. Dans 1 Pierre 2, versets 21 à 23, c'est ce qui partage un peu au travers les difficultés, Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour qu'afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est trouvée aucune fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais qui s'en remettait à celui qui juge justement. Et c'est Dieu celui qui juge justement. Et pendant qu'on le crucifiait, tout le monde, ben parmi vous, je pense que beaucoup connaissent qu'il a dit « pardonne-leur ». Alors que les gens l'injuriaient et le mettaient à mort, infâme pour le bois. Pour le juif qu'il était, mourir sur le bois, c'était impossible. Et beaucoup de juifs ne reconnaissent pas Jésus en tant que Messie parce qu'il était pendu au bois. Et pour eux, c'était une abomination totale. C'est le pire châtiment qu'on pouvait faire. Et lui, il a tout porté et il a dit « Père, pardonne-leur ». Et c'est Christ, c'est le modèle que nous devons imiter. Et comment Christ était ? On le voit souvent dans les évangiles, il s'est levé tôt pour aller prier. Toujours il était en prière, toujours en contact avec le Père, toujours en contact. Alors on va dire, oui, mais lui c'était le Fils, c'était facile. Ce n'était pas plus facile que nous, il a été incarné dans une chair avec les mêmes faiblesses. Et il a résisté en tout point. Par ces versets, donc, nous avons l'exemple à suivre parfait. C'est notre seule possibilité de tenir. Pour être imitateur de Christ, il faut s'imprégner. Il faut s'imprégner. Et où on parle le mieux de Christ ? Où on parle le mieux de Dieu et de la manière de faire, c'est dans la Bible. On ne peut pas dire, oh, moi je suis chrétien, mais je n'ai pas besoin de lire la Bible. C'est impossible. Un chrétien qui ferme sa Bible et qui dit, je sais tout, c'est un faux chrétien. On ne sait jamais tout. La Bible, elle est infinie comme Dieu est lui-même infini. Donc, il est plus facile de vivre une vie centrée sur Christ et qui porte du fruit si nous avons une vie personnelle avec lui. Et ça, ce n'est pas nous qui pouvons le faire pour vous. Personne ne peut le faire à la place de quelqu'un d'autre. C'est chacun qui s'engage à devenir une pierre vivante pour l'Église, mais déjà, qui s'engage à être un disciple personnel en Jésus-Christ. Et que ferait Christ à ma place ? Yvan nous avait partagé ça, et je pense que ça, c'est la réponse qui nous gêne tout le temps. Parce que quand on a un doute au fond de notre cœur, on sait très bien que finalement, c'est pas bon. Et quand quelqu'un nous dit « Que ferait Jésus à ta place ?», souvent, on se dit « Mince, je suis coincé. Je suis obligé de ne pas le faire. » Et pourquoi vivre comme ça ? Parce que, on va dire, là, c'est très négatif. On s'arrête sur la difficulté de la vie chrétienne, mais les bienfaits d'une vie centrée sur Christ, et voilà ce que je voulais signaler en dernier point, le quatrième, il n'y a pas que des inconvénients. Pierre ne nie pas la difficulté journalière d'une telle vie, mais avec Dieu, cela ne sera jamais là. L'épreuve n'est jamais le dernier mot, car Dieu a toujours un autre mot envers nous, et c'est la bénédiction. On a une vie bénie. Bénissez au contraire, c'est dans le verset 9, 1 Pierre 3, 9, car c'est à cela que vous êtes appelés afin d'hériter la bénédiction. En bénissant, nous héritons la bénédiction de Dieu. N'oublions pas que nous sommes appelés à bénir, donc à faire le bien, et en faisant ainsi, nous entrons dans le plan de Dieu. Et nous sommes au bénéfice de cette bénédiction sous toutes ses formes, ici et dans la vie éternelle. La bénédiction, c'est pas, je ne fais pas de l'évangile de prospérité, attention, hein. La bénédiction, c'est sous toutes ses formes. Le Seigneur nous bénit d'une manière très particulière et personnelle, chacun. Et on a une vie heureuse. Dans 1 Pierre 3, verset 10, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et de ses lèvres des paroles trompeuses. » Et là aussi, hein, la vie heureuse, ce n'est pas forcément une vie dans une villa avec une grande piscine. Une vie heureuse, c'est une vie heureuse en Christ. La Bible n'a pas la même définition pour tout le monde. Hein. Mais certains ont vécu des jours heureux malgré l'épreuve et ils étaient en paix. Je pense à Irino d'Apozzo, je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu ses messages qui parlaient, ou quand il parlait de sa vie dans les camps de travail, il a été déporté dans la Seconde Guerre mondiale, et il était heureux. Et ça gênait tout le monde, parce que lui était heureux alors qu'il était prisonnier de travail, il était dans des poux, dans les machins comme ça, et lui il n'avait rien. Et il souffrait la même chose que les autres, le manque de faim, enfin le manque de nourriture, mais il était heureux, parce qu'il vivait une vie bénie. Parce que quand il a été confronté à son chef de camp SS qui voulait le faire craquer, il a béni cet homme. Et cet homme s'est fâché, il a renvoyé à ses jours heureux. La vie heureuse en Christ, ce n'est pas forcément la définition de ce que le monde en fait. Mais la Bible nous dit que même si on ne prospère pas tout le temps, une vie en dehors du monde, une vie qui est vraiment ancrée dans la Bible est une vie heureuse. Et ça, c'est une belle promesse. Le monde est à la recherche d'un bonheur sans passer par la Bible et le monde n'y arrive pas. Le monde a toujours un plaisir fugace, éphémère, un plaisir qui finit parfois même par détruire. Mais nous, nous avons le bonheur dans la parole de Dieu. On peut en vivre heureux dans le contentement, peu importe. Parfois, ce qui nous arrive, c'est plus difficile à être heureux, mais on peut retrouver, grâce à cette connexion avec Dieu, une vie heureuse, une vie sous le regard de Dieu aussi. Et ça, c'est important. Dans 1 Pierre 3, verset 12, il leur dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Et cela peut nous rassurer quand on souffre, quand on subit, quand on est injustement mis au banc de la société. Quand tout le monde pense nous faire du mal, nous on se dit « Oui, mais qui nous voit ?» Dieu est avec nous. Si nous sommes droits dans ce que la Bible nous dit, Dieu a le regard sur nous. Les yeux du Seigneur sont sur nous. Vous imaginez, le Seigneur qui a tout créé, le Seigneur qui a créé l'univers complet, il nous regarde, nous, insignifiants, hein, et pourtant il nous regarde, et ses oreilles sont attentives à nos prières. Et cela se vit si nous avons une proximité avec Dieu. Et cela doit nous remplir de joie, en tout cas, on se dit. Et on pourrait s'exprimer comme l'apôtre Paul dira, « Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » Et ça, faut, pour pouvoir le vivre, il faut vraiment être proche du Seigneur. Et du coup, une vie qui porte du fruit, c'est le verset 16. « En ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Et Pierre met l'accent sur cette confusion. On l'a vu déjà un peu plus haut. On nous fait du mal, on nous attaque. Et des fois, il y a des personnes qui sont tout confus. Je me rappelle de ce témoignage où un chrétien est allé, c'était aussi à la Seconde Guerre mondiale, ils allaient se faire exécuter, ils avaient reçu l'ordre d'exécuter tous les prisonniers, c'était vers la fin de la guerre. Et lui, juste avant d'être exécuté, il fait « Est-ce que je peux prier ?» Et puis ils avaient accepté. Il était chrétien, il prie, il s'est mis à genoux, il a prié. Et il y en a un du groupe qui a traduit en allemand, il les a relâchés tous. Celui qui devait les tuer, il s'est mis à pleurer, il a relâché tout le monde. Il a dit « Allez-y ». Conscient qu'ils avaient de toute façon perdu la guerre, il l'avait pourtant arrêté, persécuté, attaqué. Et là, malgré tout ça, il a vu qu'il y avait quelque chose d'autre. L'histoire ne nous dit pas s'il s'est converti, mais il les a laissés partir. Parce que là même où il les calomniait comme des malfaiteurs, la bonne conduite en Christ, il a prié pour ses bourreaux, il a prié pour les Allemands. Ça devait être tendu à vivre. Donc Pierre met l'accent sur notre vie qui doit être un exemple, qui malgré les injures, malgré « vas-y, venge-toi, vas-y, attaque-le », la confusion est finalement une réponse, une remise en question des valeurs de la société. Et du coup, nous pouvons exprimer nos propres valeurs. Et Christ, c'est Christ qui doit voir en nous, comme Dieu voit Christ en nous. Cette vie à contre-courant, cette vie chrétienne est difficile, et pourtant, elle est un des premiers témoignages pour le monde extérieur, et elle porte un fruit riche pour le royaume de Dieu. Donc pour conclure, que retenir? Car Pierre met des choses au clair, deux royaumes s'affrontent, celui du monde et celui de Dieu. Il exhorte les chrétiens à vivre selon le royaume de Dieu, comme des ambassadeurs. Vous savez, les ambassadeurs, dans une ambassade, on vit dans le mode du pays à laquelle appartient l'ambassade. Si on va à l'ambassade des États-Unis, c'est un bout des États-Unis en France. Et nous devons être, chacun d'entre nous, notre foyer, notre église, notre personne, comme des ambassadeurs du royaume qui vient. C'est-à-dire avec les règles, les lois qui s'appliquent au royaume de Dieu. C'est-à-dire vivre malgré les difficultés. Elle exhorte ces chrétiens, il en est conscient de la difficulté. C'est pour ça qu'il leur dit, vivez comme Christ a vécu. Et pour cela, nous sommes appelés à vivre une vie à contre-courant, centrée sur Christ, pour devenir ses imitateurs. Tout un programme qui est difficile de vivre, mais que nous devons pourtant vivre en couple, en famille, en église, dans tout le monde. Et c'est ce que disait Ismaël Sadok, un prédicateur qui est mort maintenant. Il disait, si tu veux être un chrétien, il était d'origine, je crois qu'il était tunisien ou algérien, il disait, si tu veux être un chrétien, il faut que tu le vives dans tous les domaines. Il fait, tu ne veux pas être que le chrétien le dimanche. Il fait dans tous les domaines, avec ta femme, quand tu vas chercher ta baguette, tout le temps. Le chrétien, ce n'est pas le chrétien, là je suis chrétien, je mets mon habit de chrétien. Il fait, c'est tout le temps. Tu ne peux pas séparer le chrétien de sa foi. Et pour vivre ça, il faut vivre tout le temps une vie proche de Dieu. Donc ça commence par nous. Chacun d'entre nous, nous devons vivre une vie proche de Dieu. Pour vivre un couple proche de Dieu. Ou une famille proche de Dieu. Et du coup, une église qui est proche de Dieu. Et nous devons refléter donc Christ dans tous les domaines. Et je voulais juste vous laisser donc ces versets, si on doit retenir, dans 1 Pierre 3, versets 15 à 17. C'est le point clé. Mais sanctifiez vos cœurs, dans vos cœurs, Christ le Seigneur. étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que la même houle vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. »